vie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1997, Youssef Chahine était l'invité de projection privée. C'était l'année du destin, son 33e long métrage, une évocation de la vie d'Averroès, philosophe, théologien et juriste de l'Andalousie du XIIe siècle. S'emparer de l'histoire d'un Averroès aux prises avec les intégristes de son époque, c'était bien sûr pour Chahine une invitation à regarder droit dans les yeux l'islamisme du XXe siècle finissant. Mais fidèle à lui-même, c'était avant tout un homme de spectacle qui inscrivait ainsi son travail de cinéaste dans le combat de son temps. Mélodrame, émotion, histoire d'amour, chanson, danse, comme il le rappelait au micro de Michel Simon, c'est dans les ressorts d'un cinéma populaire que Youssef Chahine plaçait sa confiance pour embarquer le spectateur dans ses histoires, pour le placer au cœur des questions travaillées par ses films.
Projection privée. Ce soir, nous recevons Youssef Chahine pour la sortie de son nouveau film Le Destin, qui sort mercredi prochain. Et Le Destin qui a été montré au Festival de Cannes avec un très grand succès public, également un grand succès critique, et qui a permis au jury de vous distinguer en vous donnant le grand prix du Festival de Cannes pour l'ensemble de votre œuvre. Donc vous êtes un homme couronné, tout ce qu'il peut désirer, à la fois le public, la presse, vous êtes très chéri des médias. Youssef Chahine, ce film Le Destin est un film historique qui se passe en Andalousie, à la grande époque de l'occupation arabe de l'Andalousie. Et c'est un film sur le philosophe Averroès, Ibn Rushd en arabe.
Ibn Rushd, oui.
Ibn Rushd. Et c'est un film à la fois une réflexion, évidemment, sur les idées. C'est en même temps une sorte de western, de film d'aventure, plein d'action, d'amour, de combat, de poursuite. Et c'est en même temps un film qui vous touche beaucoup, comme souvent vos films. C'est en réaction par rapport à des choses de votre vie que vous les faites. Votre précédent film avait été interdit, l'émigré, avait été d'abord sorti en Égypte, puis avait été interdit à la suite de plaintes. On y voyait un côté blasphématoire. C'est un film qui évoquait les histoires religieuses, le passé religieux. Et donc, d'une certaine façon, ce nouveau film qui est sur la tolérance, qui est un film pour la tolérance, est un peu, je pense, une réponse à ce que vous avez vécu.
Ça, c'est certainement parce que même dernièrement, je discutais avec mes collègues et mes assistants de comment on fait un film. Et justement, vous avez parlé de Cannes. À Cannes, est-ce que c'est un début ou un aboutissement? Il y a des problèmes qu'on se pose. Je me rappelle qu'une des premières phrases que j'ai dites, j'étais assis et puis Gilles Jacob m'a pointé vers la scène, je devais monter vers la scène, et je me voyais, et celui qui était assis disait au type qui était sur scène, c'était les deux moi, et dit, eh bien, ok, tu as pris ton prix, hein, c'est excessivement important, c'est merveilleux, bien, et moi, qu'est-ce que je fous? Ne me dis pas qu'on va s'arrêter là, parce que moi, j'ai envie de jouer encore, j'aime le cinéma, je veux le faire tout le temps, jusqu'à la toute dernière minute. c'est qu'il y a ce genre de dédoublement, je crois qu'il est inévitable. Et quand ça vient, on commence à parler d'un nouveau scénario, bien, qu'est-ce que je vais faire? Alors, effectivement, et ça je vous donne la phrase d'un de mes élèves, qui dernièrement est venu chez moi, il me dit, mais tu écris sur quoi? Je dis, je ne sais pas, cette guerre du Golfe, où après quelques années, tout le monde commence à réaliser un tout petit peu, ou bien à s'interroger, à dire, pourquoi est-ce qu'on a participé? Qu'est-ce qu'on faisait? C'était parce qu'on vendait quelques armes, par exemple, à France, et nous, comment l'armée égyptienne, comment un Égyptien pouvait aller au front pour affronter un autre Égyptien qui était dans l'armée irakienne. Il y avait beaucoup d'Égyptiens. Alors je me posais des questions. C'est certainement que tout le contexte qui se passe autour de vous doit être là présent dans le prochain, inévitablement, parce que vous le sentez, vous le sentez. Moi, je suis très sensuel et charnel et...
émotionnel. Hein? Et émotionnel.
Ça beaucoup, oui. De ce point de vue, je suis extrêmement oriental. Quand j'aime beaucoup et profondément. Il me dit, tout ça, c'est très bien. Je dis, non, n'aie pas très, très peur. Ça, c'est le contexte que je veux revoir et savoir comment j'ai pensé, comment j'ai réagi à tout ça et comment je réagis encore à toutes ces politiques. On ne peut pas aujourd'hui dire, je ne sais pas ce qui se passe. Non, on sait. Mais il me dit, parce que tu sais, si ça ne passe pas, par une expérience personnelle chez toi, tu la racontes moins bien. Je ne suis pas simplement un raconteur d'histoire. Je raconte mieux si je l'ai vécu moi-même. Et tout le temps, on vit des choses. Hein, tout le temps, on confronte des choses, surtout si vous avez des idées à vous. Et dans un monde qui ne permet plus l'idée de l'autre de passer. Hein, maintenant, chacun vous dit, non, tu dois penser comme moi. Comme j'ai dit hier. Il y a les fous de Dieu, les monopolistes de Dieu. Mais il y a aussi les monopolistes du pouvoir que nous connaissons tous. Il y a, je crois, le pire et le plus dangereux, les monopolistes de la connaissance. Moi seul, je sais qu'est-ce qui t'est arrivé. Non, tu n'es pas le seul. Moi, j'ai lu l'histoire bien. Peut-être que moi aussi. Toi, quand tu l'as lu, tu étais dans quel état d'âme? Hein? Tu es la même personne qui peut lire un bouquin deux fois. Une première fois, je le reçois d'une façon, une seconde fois, je le reçois d'une autre façon.
Alors, à une époque où l'autobiographie est très populaire chez les jeunes artistes, on doit parler de soi-même, vous montrez au contraire qu'à travers une fiction fondée bien sûr sur l'histoire, mais à travers une fiction dans un temps très reculé, en costume, etc., vous parlez autant de vous-même. D'ailleurs, d'une certaine façon, un de vos films précédents, il y a longtemps, Saladin, était lui aussi une réconstitution historique qui parlait de l'intolérance.
Oui, moi je crois que ça vient d'encore plus loin, depuis ma naissance à Alexandrie. Alexandrie, moi je suis né parmi 17 nationalités différentes, 4 religions, et on ne se posait jamais ces questions. Alors quand on a commencé à dire, mais toi tu es quoi? Tu es de quelle ethnie? De quelle religion? Ça me dérange. Moi, je disais, tu me plais pas. Et c'était fini. Ou bien on se plaisait, et on voulait être ensemble, ou bien on se plaisait pas. Un point. Point, c'est tout. Et d'ailleurs, même quand on plaisait pas, on disait, bien pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Alors, il y avait un dialogue, continuel. La question de tolérance, je crois que, ça vient par l'éducation aussi. Alors, c'est là s'il faut se poser des questions pourquoi aujourd'hui il y a tellement d'intolérance. Retournant un tout petit peu en arrière, disons bien qu'il doit y avoir une bonne raison. À certains moments, quand on pense à la Bosnie, quand on pense au Moyen-Orient, quand on pense à beaucoup de choses, on se dit mais le monde a changé et pas en mieux. Supposément, nous avons des moyens de communication extraordinaires et on communique de moins en moins. Deux personnes qui sont à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre, et peut-être même on a honte de dire comment tu te sens. Puisqu'on a honte même de dire, tu sais, je t'aime bien. Mais alors, de quoi on parle? Quel est le rapprochement entre les êtres humains qui ont toutes les occasions de se rapprocher et font de tout pour se haïr?
Alors justement, vous évoquiez Alexandrie. Une ville qui a inspiré beaucoup les artistes. Enfin, on pense au magnifique roman du grec Statis Tsirkas, les cités à la dérive, ou le quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel.
Cavafy, le poète.
Absolument. Alors, pour vous, c'était quoi cette matrice, un peu, pour vous, qu'a été votre ville natale? Vous avez été à l'école primaire chez les frères, vous avez été à l'école anglaise jusqu'à la high school, vous avez été élevé catholique, vous avez un père libanais. Votre formation était donc, comme vous le disiez, multiculturelle.
Oui, mais c'était excessivement automatique. C'est-à-dire, on ne disait pas. Je ne voyais pas des différences de nationalité ou de religion. Je voyais des différences. C'est qu'une femme était trop grande, ce n'était pas celle que j'aimais particulièrement. L'autre était un peu plus féminine et plus petite. J'aime ça. Pourquoi Fellini a besoin d'avoir des femmes qui ont des canons devant elles? Ben, ça, c'est des particularités très, très personnelles, mais c'est tout. Et avec ça, on s'arrange. Mais quand d'un coup tu dis non, toi tu es différent, toi tu es l'autre, toi tu es le méchant, toi tu es celui que je ne veux pas parler, ça n'a jamais existé pour moi.
Mais par rapport au Caire, par exemple, Alexandrie, quelle distinction?
Non, l'Alexandrie d'une certaine période. Attention maintenant, parce que moi aussi je ne
veux
pas... Alexandrie,
vous êtes né en 1926, je parle donc oui. De l'Alexandrie jusqu'à la fin de la guerre.
Jusqu'à la fin de la guerre. Alors c'est celle que j'ai connue, c'est là où j'ai vécu en tant que jeune homme, c'est là où mes passions ont éclaté, c'est là où j'ai... pour tout. Et pour le cinéma, et pour l'autre. Et chaque fois que je vais, même dans l'histoire même, quand je disais bien Alexandre, l'Alexandrie, Alexandre le Grand, qu'est-ce que c'est, comment il l'a découvert, et tout ça, ça a commencé à m'intéresser pendant et durant toute ma carrière. Beaucoup de choses se sont passées à Alexandrie. La plus grande bibliothèque du monde, les plus grands amours, Cléopâtre, Jules César, il y a beaucoup de choses, une richesse extraordinaire qui me parvenait toujours d'une façon à travers la dramaturgie et non pas à travers l'histoire. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas un historien. Moi, je raconte des histoires qui ont existé, mais je les raconte avec autant de passion que possible. Et aussi, parce que je suis un professionnel, je vous dis, je ne peux pas raconter une histoire d'une façon ennuyeuse. Si c'est une thèse, je n'ai qu'à l'écrire. Mais si c'est un film, non, il doit y avoir du divertissement, je dois avoir et l'aventure et l'amour et tout ça qui est merveilleux au cinéma. Alors, cette ouverture vers l'autre. Et finalement, c'est pas simplement par tolérance que j'ai l'ouverture. J'ai appris comment aimer l'autre.
Alors c'est aussi le sujet, justement, de votre nouveau film, Le Destin, c'est-à-dire Le Chemin vers l'Autre, oui. Par le livre, par la culture. Donc vous avez choisi ce grand philosophe musulman de l'Occident, qu'on pourrait opposer à Avicenne, qui était le philosophe musulman de l'Orient.
Oui, un donc, peu avant, oui,
voilà,
celui-là était...
Averroès était donc, vivait en Andalousie. Ce qui est intéressant, c'est que vous l'ayez choisi comme sujet d'un film, alors qu'en fait, il n'a pas de postérité dans l'islam. Parce que c'est plutôt les juifs et les chrétiens qui ont traduit ces livres, qui les ont propagés. Oui. Et finalement, la gloire d'Averroès est passée par l'Occident chrétien jusqu'à Renan, qui n'était pas chrétien, mais qui a écrit un livre sur lui au 19e siècle. Alors, pourquoi ce choix d'Averroès?
Peut-être parce que je me refusais qu'elle a passé tout ce temps-là. Et que l'Occident, que je vois avancer hein, en pensée et en philosophie, n'était pas assez connu chez nous. Il commence à être connu. Alors je voulais participer, je dis non, mais oui, c'est un philosophe excessivement important, parce que justement, il avait cette ouverture universelle. Et que sa pensée qui a influencé l'âge des Lumières, bien, je voudrais bien qu'elle nous influence à nous, surtout à une période où on n'a pas l'air d'aller de l'avant, et où les textes sacrés sont en train d'être lus très très mal par tout le monde et dans les trois religions. Hein, on retourne vers les inquisitions et on retourne vers alors au lieu de l'ouverture, il y a une fermeture. Et bien, alors c'est le moment ou jamais où il faut parler que la période d'ouverture, elle valait vraiment la peine. Et c'était beau de vivre avec l'autre. Et c'est beau que l'autre soit différent, parce que c'est pas mon image que je veux tout le temps.
Mais en même temps, Averroès, si plus tard il a beaucoup été repris par les chrétiens et les juifs, lui-même était inspiré par Aristote, parce qu'en fait c'est un disciple d'Aristote, c'est une lecture d'Aristote son œuvre.
Oui, lui préfère, je crois, une autre... Il a réinterprété Aristote, et il a mis du sien. Et certainement, quand on va jusqu'à Aristote, c'est là où on retrouve comment la relation humaine devrait être et qu'est-ce que c'est que la vraie ouverture, et où est la raison. C'est surtout ça, entre la raison et la révélation. Est-ce que les deux peuvent se rencontrer ou on ne peut pas se rencontrer? Est-ce qu'il y a réellement une contradiction entre eux? Ou bien finalement, comme a dit Averroès, non, ils se rencontrent au bout du compte, pourvu que et la révélation et la raison émanent d'une morale.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction pour lui entre la philosophie et la loi divine.
Oui, exactement, c'est ça. Alors, il y a des gens qui vous disent, non, je suis le seul, on retourne au point avec lequel on a commencé, non, je suis le seul à savoir ce que le texte veut dire. Ah non, oui, tu pourrais, mais si moi aussi j'ai des références, et si moi aussi je m'applique à comprendre le texte, tu ne peux pas dire que tu es le seul, tu n'as pas le droit de dire que tu es le seul. Parce que toujours, tout ce qui a été écrit peut être interprété d'une façon ou d'une autre. Alors, quand on fait l'interdiction totale de l'interprétation, ça c'est, en d'autres mots, on ne veut pas que vous pensiez. On ne vous donne pas le droit de penser. Non, c'est l'Église seule qui pense, ou bien c'est le barbu qui pense, ou bien c'est l'autre qui... Non. Alors, aujourd'hui, ça devient un tout petit peu ridicule. Ok, peut-être qu'on va penser différente de la tienne. Ok, ça va. Dis-moi la tienne, je te dirai la mienne, et peut-être qu'on va arriver à quelque chose.
Alors, vous n'avez pas néanmoins voulu faire un film sur les idées. Il n'y a pas de discussion philosophique. Vous avez fait un film de divertissement avec une morale, disons un film didactique d'une certaine façon, qui enseigne quelque chose, mais sous la forme du mouvement, de l'aventure. Et là, c'est tout de même, vous avez un rapport au cinéma très intéressant parce que même dans votre vie, vous avez étudié pendant 2 ans le cinéma
américain
en Californie.
Ouais.
Vous êtes allé à Pasadena en 1946, tout de suite après la guerre, ce qui est tout de même assez rare. Pour un futur cinéaste arabe, de faire ses études à Hollywood, finalement. Et vous n'avez... Ce film s'inspire plus des péplums italiens, des films en costume que les Italiens aimaient faire dans les années 50 et 60, ou des films américains, que, disons, un film qui se voudrait très sérieux, avec de profonds débats philosophiques, comme chez Jean-Marie Straub, par exemple, ou chez Jacques Rivette.
Ils sont beaucoup plus purs. Moi, je suis beaucoup plus putain que ça, je regrette de le dire, mais mon grand problème, c'était comment, par exemple, traduire une idée, même philosophique,
en
scène et incident de la vie quotidienne. Parce que si je veux réellement savoir quelle est la philosophie, quelle est l'idée de choses-là, non, je ne crois pas qu'un film peut raconter tout ça assez bien et assez clairement et à assez de monde, parce que moi j'ai beaucoup de gens que j'ai envie d'atteindre et qu'il faut atteindre.
Mais rendre les idées par les images, c'est ce qu'il y a de plus difficile en même temps.
Ouh là là.
C'est
là
plus difficile que de faire
comment concrétiser une idée philosophique en scène, en émotion, en relation entre personnages et tout ça. Ça, c'était le vrai travail qu'il y avait à faire, et il fallait le faire avec une très grande simplicité pour que ça arrive.
Alors, vous l'avez fait avec un collaborateur, vous avez
le scénario
est signé à deux. Mais comment alors s'est élaborée cette transposition dramatique d'idées, disons, philosophiques?
Premièrement, il a 28 ans. Je travaille toujours avec des jeunes, pour être plutôt en rapport avec comment ils sont en train de penser maintenant. Je ne veux pas penser archaïquement comme je pensais alors. On discutait énormément. J'ai dit, Santa Maria, comment dire que pour lui, ça veut dire qu'il y a une idée de base qui est très très importante, qui dit on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'est pas maître de sa propre pensée. Ça veut dire où il y a le lavage de cerveau. Ouh là là, le lavage de cerveau, ça arrive à travers et la radio et la télévision, on le subit chaque jour. Comment raconter ça? Et surtout que j'avais vécu ça avec un de mes acteurs. qu'on a pris, et exactement en trois semaines, c'est devenu une autre personne.
Oui, il s'agit de Mohsen Mohyeddine, c'est oui. ça qui était chez vous dans Alexandrie, pourquoi? Dans Adieu Bonaparte. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
D'un coup, en tournée, on était en plein tournage, à la cinquième semaine, il y a un rideau de fer. Et moi, je l'aimais bien, parce qu'il était facile à manier, pas à manipuler, mais à manier, ça veut dire, on se lisait du regard, et il comprenait. Quand je disais encore une fois, il me dit, bien, j'ai bien compris pourquoi. D'un coup, il y a un rideau de fer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il était en plein travail. Alors j'étais même un peu loin quand on aurait pu lui faire un lavage de cerveau, et je ne sais même pas, je ne suis pas certain jusqu'à maintenant, mais il y a quelque chose de très très grave qui est arrivé. C'est devenu une autre personne.
Il est devenu un intégriste.
Oui. En l'espace, enfin, disons, un extrême religieux. Ça veut dire, bien, l'Égyptien a toujours été religieux, il a toujours. Mais d'une façon excessivement modérée, moderne, merveilleuse, avec beaucoup d'amour. Ce n'est pas le fanatique. Vous étiez au Caire et vous avez vu, on a mangé ensemble dans le petit restaurant là. Mais d'un coup, non, c'est moi qui ai raison et vous avez tous tort. C'est moi qui pourra dire tel ou tel et vous ne savez pas. Et je ne le voyais pas vraiment s'appliquer à lire tous les textes qu'il fallait, ça veut dire, mais comment il ose, je ne comprenais pas. Et à partir de là, alors, ça voulait devenir le maître qui va enseigner aux autres. Et ça, c'est dans le Coran même, c'est un péché, on ne peut pas le faire, tu n'as pas assez de connaissances. Alors, c'est une chose qui m'a fait énormément souffrir, je disais, comment je suis en train de le pousser vers la modernité, hein, ou bien nous vivons aussi près de la modernité que possible. On lit les derniers bouquins, les dernières pensées, et de l'étranger, et des Égyptiens, et des Arabes, et tout ça. Et puis d'un coup, il y a cet autre côté qui est en train de tirer. Quelles sont les raisons culturelles, quelles sont les raisons politiques, qu'il y a des gens qui sont en train de faire ces choix en ce moment? Alors, c'est là l'importance qu'il fallait faire ce film à ce moment.
Alors concrètement, est-ce que vous pouvez me parler d'une ou deux scènes? Comment vous avez pu justement rendre palpable, physique, par l'action, par le mouvement, des idées?
Voilà, justement, il y a quelqu'un qui agresse quelqu'un, comme on a agressé Nagui Mahfouz. Ok?
Mahfouz, oui, le prix Nobel.
Le grand prix Nobel, qui était un énorme écrivain. À certains moments, j'étais à Paris. Il y avait le procès du type qu'il avait agressé. Il y avait d'autres procès aussi. Alors, dans ma tête, je ne savais plus qui arrivait quoi. Mais tout ce que je sais, quand j'ai entendu que la condamnation a été excessivement grave, ça veut dire certains jeunes gens ont été condamnés à mort. Mais moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Et je me dis, est-ce qu'on sait assez pour en arriver là, des jeunes de 19 ans, 23 ans, 26 ans, des tout jeunes, arrivés à pendre des jeunes, supposément pour des actions horribles, certainement, mais à quel point ils étaient maîtres de leurs choses. Alors, dans le film, il y a effectivement quelqu'un qui agresse un chanteur, et quand il vient, parce que Averroès aussi était le grand juge, quand il passe devant Averroès, Averroès dit ça, et la condamnation qu'il fait est très, très, la moins dure possible. Il lui donne 5 ans de prison, il le fait pas pendre. Et plus tard, on le voit pendu. Mais par les gens qui veulent le silence de ces jeunes gens-là. Alors, il y a tellement d'intérêt dans la chose. Alors, ça, je l'ai concrétisé. Je vois le jeune homme agressé. Je le vois apparaître devant Averroès. Je vois qu'Averroès ne lui donne pas une punition qui est trop forte. Ça veut dire, il comprend. Ça se voit pourquoi il a fait ça. Il le dit. Il dit que dans l'islam hanif, on n'a pas le droit de condamner quelqu'un à une condamnation très très grave s'il n'est pas maître de ses idées. Bien, je le vois concrètement devant moi. Il donne cette petite condamnation. Après ça, c'est les autres, ceux qui veulent se venger, ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui sont en train de faire la fameuse lutte qu'il y a en ce moment en Algérie, un peu partout. Qui veut quoi? Comment arriver à toute cette cruauté? Pourquoi? Alors, comme la question se pose et qu'elle est très vivante dans nos cœurs, moi j'adore les Algériens, je ne vais pas vous dire un pays ou des montagnes, non, les Algériens, je les aime énormément, d'ailleurs je les trouve très beaux. Et je trouve, je ne sais pas, je n'arrive pas vraiment à avoir toutes les réponses. En partie, oui, je dis attention, il y a une partie où il y a une lutte du pouvoir. Et les pouvoirs ne sont pas tellement moraux non plus. Hein. Chacun est en train de tirer de son côté. Mais en arrivé là, alors peut-être que c'est une petite discussion qu'il faut avoir, mais l'avoir d'une façon, comme vous dites, à l'américaine, où je ne m'ennuie pas, où je m'amuse, et je vois l'aventure, et je vois quelqu'un qui est en train de sauver un bouquin, je vois l'autre tomber d'une chute.
Une scène de canoë, très dangereuse.
Elle a pris beaucoup de travail. Et là, je crois que on a enquiquiné Dieu un tout petit peu, parce que dans la même journée, il fallait tourner les torrents, et dans la même journée, il fallait faire un seul plan de la neige. Alors, pour qu'il y ait les torrents assez forts, il faut prier qu'il y ait du soleil pour que la neige fonde, mais il ne faut pas prier trop trop dur, parce que j'ai un plan sur la neige en haut. il ne savait plus quoi me donner. Mais grâce à Dieu, je suis arrivé à une saison où j'ai pu avoir tous les deux, mais juste.
Alors, ce film, c'est aussi sur la volonté d'un penseur, mais qui pourrait être un artiste, d'être maître de son œuvre. C'est-à-dire de pouvoir faire circuler son œuvre. D'ailleurs, ses disciples, finalement, ses proches, feront circuler ses livres pour leur assurer la pérennité. Mais vous-même, vous avez traversé, finalement, toute l'histoire de l'Égypte de l'après-guerre, puisque vous avez commencé à tourner des films à l'époque de Farouk. Ouais. Vous avez ensuite tourné sous Nasser, puis sous Sadat, et aujourd'hui. Et ça n'a pas toujours été facile. Vous êtes même, à un moment, parti au Liban, parce que vous n'étiez plus persona grata dans votre pays.
C'est pas ça. Effectivement, c'était un exil volontaire. Parce que je ne pouvais permettre à personne, même pas à moi-même, d'accepter qu'on me dise « Non, tu dois penser comme moi, je te dis. » Non, moi j'ai ma propre pensée, si elle vous plaît, elle vous plaît, elle vous plaît pas, ça va, discutons là, mais tu n'as pas le droit d'arrêter ma pensée totalement. Et cette question des bouquins et des je ne sais pas quoi, bien, il y a eu un film que j'ai fait avec les soviético-égyptiens. Celui-là ne l'a pas aimé, l'autre ne l'a pas aimé, moi je le trouvais pas mal, et j'ai dû faire passer des bobines de 70 mm à travers des Français qui étaient au centre culturel. Je dis, mais attention, ils vont tuer le film.
C'était les gens du Nil ?
Oui, que j'appelle maintenant un jour le Nil, parce que maintenant il m'appartient, puisqu'ils le renient tous. Alors maintenant il m'appartient à moi, et c'est la vraie version. C'est la version que j'ai voulu moi faire et que j'ai faite. Alors il y avait des bobines de 70 mm énormes, grosses, lourdes. Et j'avais chez des copains, M. Marfin, qui était au centre culturel. Je lui ai dit, tu peux m'aider ? Il me dit, aucune inquiétude. Hein, seulement, je ne pourrais pas te l'envoyer tout d'un seul coup. Finalement, le film est arrivé ici à la Cinémathèque. Imaginez-vous, après 20 ans, la Cinémathèque, avec Pagny et tout ça, ils m'ont aidé à refaire un négatif de cette seule copie qui existe au monde, parce que le film a été changé de nouveau. Et maintenant, j'ai ce film, l'original. Et ils l'ont restauré, ils l'ont fait sur 35 mm.
Alors, il y a évidemment un arrière-plan dans le film, dans votre film Le Destin, c'est l'Andalousie. Andalousie, d'ailleurs, que vous avez tourné en Syrie, au Liban, et non pas en Andalousie.
Oui.
Mais néanmoins, alors, d'abord, pourquoi vous avez transposé ailleurs? Et deuxièmement, d'où vous vient cet amour de l'Andalousie? Parce que ça joue beaucoup, la culture arabe du XIIe siècle en Espagne. C'est tout de même très particulier. Et comment l'avez-vous abordé? Ça vient de loin.
Écoutez, c'est pas particulièrement savant, ou bien particulièrement... culture, comme on dit avec un grand C. Moi, j'aime beaucoup le flamenco. Et le flamenco, c'est un mélange entre la mélopée arabe et un rythme européen, si vous voulez. Et c'est comme ça que j'ai eu la première idée comment faire le film. Je voulais entendre du flamenco. Je voulais faire la naissance du flamenco. Puis j'ai été en Andalousie, j'ai entendu beaucoup de flamenco, tout ça. J'ai vu danser, c'est affolant. C'est une danse absolument formidable. ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup plu. J'étais toujours très emporté par la musique et par la chanson. Mais quand j'ai regardé, parce que j'avais fait beaucoup de lectures avant d'aller en Andalousie, qu'est-ce que c'est que Cordoue, qu'est-ce que c'est que Séville, qu'est-ce que c'est que Grenade. Grenade est de très belles histoires, surtout vers la fin de la période arabe. Quand j'ai été sur place, c'était pas ce que j'avais dans mon imaginaire. Dans mon imaginaire, c'était un peu différent. Par exemple, oui, il y a encore quelques constructions arabes comme l'Alcazar, comme l'Alhambra. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Peut-être c'est l'esprit arabe. On ne peut pas tourner dans un endroit qu'on ne sent pas totalement une certaine quelque chose. Même la présence d'Averroès, si vous voulez, ou bien la présence de quelque chose que j'ai bien lu. Mm-hmm. Et quand j'étais en Syrie et au Liban, j'ai retrouvé exactement la même chose, plus cet esprit arabe qui était strictement essentiel pour moi, pour que je puisse sentir comment ils bougent, ces gens-là, comment ils vont, qu'est-ce que... À part qu'il y avait une quantité de touristes dans ces endroits, je dis, je ne pourrai jamais tourner, je vais faire un plan par jour, et les producteurs, les franco-égyptiens, les deux vont me pendre. Et là, en Syrie et au Liban, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont aidé, réellement, totalement. On m'a même donné des soldats de l'armée.
Alors justement, vous remerciez les ministères de Syrie et du Liban, mais c'est un film tout de même sur la tolérance, c'est un film sur l'échange des idées. Alors est-ce que la Syrie a soutenu le film parce que c'est un régime laïque par rapport à l'intégrisme religieux, ou simplement parce qu'il croit à la liberté des idées? Ce n'est pas tellement le cas en Syrie. On ne peut pas dire que c'est un pays où il y a beaucoup de contestations.
On ne peut pas généraliser comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous pouvez trouver, par exemple, Madame le ministre là-bas est d'une tolérance absolument extraordinaire. Alors, moi, je ne peux pas dire... Les gens que moi, je sais fréquenter, les gens que je sais les convaincre que c'est une chose qui doit être faite, même si d'un côté, ça ne vous plaît pas totalement, je ne sais pas quoi, bien, je les retrouve.
Ce n'est pas un pays comme l'Égypte, par exemple, où il y a beaucoup plus de...
Il y a des gens qui sont... Non,
les gens, mais le pouvoir. Le pouvoir en Syrie est un pouvoir de...
Oui, vous savez, avec moi, le pouvoir, ça a toujours été un jeu terrible. Où était le pouvoir pendant qu'on me faisait un procès de l'émigré? Peut-être au contraire, ils m'employaient comme bouc émissaire ou bien comme... Ben ok, je dois aussi m'arranger avec ça. Malheureusement, je le dis, moi j'ai 80% de mon temps à défendre mon film et à défendre, à ouvrir un chemin, à voir et 20% réellement de travail sur le film. Ben ok, c'est mon destin, c'est ma vie, je n'y peux rien, il faudra continuellement lutter, parce que continuellement il y a quelqu'un qui croit avoir le droit de vous faire changer votre pensée. Maintenant, si tu veux que je change ma pensée, écris quelque chose et moi je vais la lire et je serai convaincu, alors peut-être que tu peux. Touraine a changé ma pensée, Jean-Daniel, beaucoup de gens, énormément de gens, comme j'ai dit, on ferait. Il y a un tas de gens qui m'ont changé, mais je suis convaincu par la lecture de ce qu'ils disent. Mais par la force, parce que je suis au pouvoir, non, je ne permets à personne. Et comment je vais trouver un moyen? Voilà, voyez mes films et vous allez voir les subterfuges.
Alors, il y a une chose aussi très, très intéressante dans vos films, et en particulier dans Le Destin, c'est la place des femmes. À un moment où, justement, dans certains pays musulmans, la femme perd ce qu'elle avait péniblement réussi à gagner, comme en Algérie, par exemple.
Même chez nous, en
Algérie. Même chez vous, au contraire, vous montrez des personnages féminins forts, avec une grande personnalité.
Premièrement, peut-être parce que le cinéma, même égyptien, a été formé par les femmes, a été créé par les femmes. Et les femmes ont beaucoup soutenu tout le cinéma égyptien. Vous savez qu'il a presque l'âge du cinéma français. À 3 ans de différence, il y avait déjà un cinéma alexandrien, un cinéma au Caire.
C'est un des plus vieux cinémas du monde.
Et ça a toujours été les femmes qui étaient derrière ça. Toutes les femmes que j'ai connues, j'ai eu une mère qui était très forte, j'ai ma femme qui est française, alors qui est aussi... Elle s'arrange bien à voir ce qu'elle veut. Et ma sœur était très très forte. Pour moi, la femme, c'est certainement le 50%. Je suis dégoûté quand elle se permet de devenir elle-même. Et je la blâme elle-même. Elle qui peut être tellement forte, tellement intelligente, tellement un savoir-faire, elle se permet d'être l'objet de monsieur. Et pourquoi ne dit pas non? Elle a des moyens aussi, des moyens très privés, si vous voulez, mais il y a des moyens de dire non, je ne me mettrai pas sous cette tente.
Oui, c'est Lysistrata.
Non, mais surtout, elle a eu, comme vous avez dit, elle a eu une très longue lutte. Eh bien, aujourd'hui, tu te remets. Mais ça a été très fort comme mouvement. Ils l'ont poussé dans les écoles. Alors la fille qui voulait laisser ses cheveux se sentait solitaire. D'un coup, tout le monde... Et il y a eu un jeune homme, un jeune réalisateur qui s'appelle Yusri Nasrallah, qui a fait un film sur le voile, où il montre que malgré le voile, malgré le chose, la femme qui sait vivre, qui veut vivre, elle vivra. Mais quand il y a tout un mouvement, comme il y a eu un mouvement envers la justice, où, là où ils peuvent taper, les fanatiques, ils essayent de pénétrer. Et il faut avouer qu'ils sont soutenus, économiquement.
Vous avez voulu même faire un moment un film avec la grande chanteuse Oum Kalsoum.
Ah oui. Oui, on était devenus copains. Et ça a commencé par une insulte. Elle était excessivement intelligente et très sympathique. Et puis un jour, elle m'appelle après que j'avais fait Saladin. Et j'avais reçu le prix de l'État, des mains même de Nasser et tout ça. Puis je vois que toute la ville est en train de me chercher. Et monsieur le ministre, monsieur le sous-ministre, monsieur le je ne sais pas qui, monsieur le je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, on me dit, la grande dame a demandé à te voir. Tout le monde tremblait. Je dis, bon, avec grand plaisir. Alors, je vais chez la grande dame, je m'informe qu'est-ce qu'elle voulait, effectivement. Paraît-il, c'était presque un clip. Et je dis, bien, est-ce que je peux entendre les mots? Elle lit les mots, ça ne me plaît pas. Et après, je fais Saladin, je vais faire un clip sur les constructions et sur les cheminées qui augmentent et sur l'arbre qui je ne sais pas quoi. Alors, je le lui dis. Mais n'importe quel imbécile peut faire ça, pourquoi moi? Elle me dit, ah, ils ont raison, tu es totalement... Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je fais ta vie, tu me racontes ta vie. Et elle était d'accord. Et là, elle a commencé à raconter. C'était absolument fabuleux, une petite qui vient d'un tout petit village, de rien du tout. La première fois qu'elle est montée dans le train, elle croyait que c'est les arbres qui marchaient. C'était pas le train qui... Des choses assez fabuleuses. Et malheureusement, on a jamais réussi à terminer ça. J'avais même commencé à tourner. J'ai la seule chanson en couleur que Oum Kalsoum a jamais fait. J'avais tourné une vraie chanson dans une ville où elle chantait. J'ai fait en direct. Et encore, ça attend qu'un de ces jours, peut-être que je vais faire la vidéo Oum Kalsoum.
Mais alors, vous avez fait votre vie, par contre. C'est-à-dire que je parlais au début de cette conversation de la façon dont vous rebondissiez à partir d'une chose grave, par exemple... ce film « L'émigré » censuré a donné naissance au destin, ce film qui va sortir. De la même façon, votre opération à cœur ouvert vous a ensuite inspiré une autobiographie en trois films. Alexandrie pourquoi, La mémoire, Alexandrie encore et toujours.
Oui, je crois que c'était la toute première fois dans le cinéma où vraiment un auteur dit « je ». C'est-à-dire, on fait des détours à travers d'autres personnes. Ici, j'ai dit totalement « je ». J'ai vu dernièrement... Je croyais avoir dit au moins 80% de vérité. Non, c'est presque 100%. Il y a 95% juste pour la pudeur. Mais qu'un film soit aussi vrai. Alors là, vous vous dites, bien, quand j'invente quelque chose et j'ai envie de tout dire, je dois me référer à quoi? Personne n'avait fait une chose comme ça. Alors ça vous donne l'occasion de vraiment faire quelque chose de nouveau. Totalement nouveau. Et quand je vois le film, il y a tellement d'inventions, il y a tellement de folies. Je dis, ben voilà, ça vaut la peine. Ça a déclenché quelque chose qui vaut la peine.
Si vous aviez, pour terminer, trois films de vous qui vous tiennent le plus à cœur ou qui sont, disons, qui se rapprochent le plus de ce que vous vouliez faire, parce que pour un artiste, une œuvre n'est jamais ce qu'il avait rêvé. Quels sont les trois films qui se rapprochent le plus de votre désir premier?
Écoutez, résumons ça, puisqu'on parle de...
C'est entre nous, ça ne sera pas...
Non, mais ça va. Moi, je dirais Alexandrie, pourquoi? C'est un film que chaque fois que je le vois, je suis excessivement troublé. Parfois, je me dis, mais je suis un fou, est-ce qu'on a le droit de parler
de soi-même?
De toi-même, premièrement. Et d'ouvrir vraiment tout et de dire absolument tout. Surtout que je partais et je continue à avoir cette position je ne m'appartiens pas. On ne s'appartient pas. On appartient aux autres. Alors, tu as envie d'être honnête, tu as envie d'être ouvert. Hein, dis tout ce que tu as sur le cœur. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on emploie tout le temps. Hein,
à part Alexandrie, pourquoi ?
Ah, j'aime bien le film où j'ai joué. Gare Centrale.
Gare Centrale, vous jouiez à... Oui, vous jouiez un bossu, un boiteux.
Un boiteux. C'est parce que je trouvais qu'il n'y a pas un d'entre nous qui ne l'est pas, hein, ou mentalement, ou physiquement. Et je voulais. Hein, moi, j'ai commencé par être acteur, premièrement. Je voulais être acteur. Puis j'ai découvert à Pasadena Playhouse que les cours qu'on donne aux acteurs étaient moins bons que les cours de mise en scène où il y avait la dramaturgie, il y avait autre chose aussi. Hein. Alors, j'ai dit, OK, la mise en scène. Puis je me regardais au miroir, je disais, bon, toi, mon vieux, jusqu'à ce que tu deviennes acteur, ça prendra du temps, tu seras un bon character actor. Mais jusqu'à ce que tu deviennes le character actor, sois metteur en scène, un de ces jours peut-être, hein, tu auras un rôle à te donner à toi-même. Et c'est arrivé dans Gare Centrale.
Et un troisième ?
Je ne sais pas, j'aime bien la terre, j'aime bien...
Le non, moineau j'aime...
Oui, le moineau, c'était ma politisation. C'était après 67. Avant 67, j'étais assez comme ça, spontané. J'aimais les gens et c'est fini. Mais comment les aimer et tout ça, non. La défaite de 67 a été une rétrospective pour nous tous de nos vies, de ce qu'on a fait, du travail et tout ça. Ça a été très, très, très important.
Donc c'est une œuvre constamment reliée à l'histoire. Merci beaucoup, Youssef Chahine. Nous avons parlé du destin et aussi de votre personnalité très forte. Je rappelle que votre film, Le Destin, sort en France mercredi prochain.
Ciao.
Projection privée.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 mai 2010.